Phil PM. Politique.
Alors, juste pour comparer, en Europe, ils n'ont pas de standard du tout. Et aux États-Unis, c'est 3 heures pour les vols domestiques et 4 heures pour les vols internationaux. On a choisi 3 heures parce qu'on croit que c'est équilibré entre le désir de la personne de se rendre à sa destination. Et des fois, il y a des délais. On veut qu'il y ait des conditions de traitement des passagers à bord de l'avion durant cette période-là.
Voici Paul Journet et Carl Bélanger.
Alors, c'était le ministre des Transports, Marc Garneau, donc, qui a procédé ce matin à cette annonce. On vient d'en parler, là. Carl Bélanger et Paul Journet, bonjour.
Bonjour.
Carl, tu vas nous apporter une conclusion à cette discussion, donc, sur la charte des voyageurs?
Ben, je sais pas s'il y aura une conclusion, parce qu'à mon avis, premièrement, il faut que les gens comprennent, là, les mesures ne s'appliquent pas immédiatement. Non. Si vous avez des voyages pour le temps des fêtes, mm-hmm. ça s'applique pas à vous, là.
Non, 1er juillet.
On entre dans une période de consultation de 2 mois.
Ouais.
Et là, si d'aventure, quelqu'un réussit à convaincre quelque part au gouvernement qu'il faut faire des changements, ben on va retarder tout le processus.
Mais ce qu'il me dit chez Garneau, c'est qu'il pense que, oui, la consultation, évidemment, est nécessaire. Elle est légalement même obligatoire, mais il pense être capable de mener tout ça et de faire entrer en vigueur la nouvelle réglementation pour le 1er juillet. Ils se sont donné un jeu, qu'ils m'ont dit.
Ouais, ben écoute, ils se sont donné un jeu. Puis la dernière fois qu'on a parlé de ça, c'est quand C-49 a été déposé, qui est la loi qui a mis en place la possibilité de mettre ces règlements-là.
Ouais.
Ça, c'était en septembre 2017. Puis la sous-ministre disait à tout le monde, l'objectif, c'est que ce soit en place en 2018. Or, ça sera pas le cas. Donc, moi, je vais me garder une petite gêne.
Ouais.
Je vais attendre de voir.
Correct.
Et si d'aventure ça arrive et qu'on a ça en place, c'est drôle, pour l'été 2019, juste avant l'élection.
Ouais.
Quand même un hasard intéressant.
Ouais, peut-être. C'est sûr qu'ils sont pas malheureux de ça, là, parce qu'ils considèrent à juste titre que c'est un bon coup, là. Objectivement, là, peu importe le parti au pouvoir, le Carl, là, qu'on soit mieux protégé comme passager, on va pas s'en plaindre, là. Hein?
Ben, c'est certain. Écoute, ben, on est dans le strict minimum, là. Tu sais, l'overbooking, là, il y a aucune industrie autre que le transport aérien qui traite ses consommateurs de la sorte.
Ouais.
Quand tu voyages avec un transporteur aérien, tu joues toujours à la roulette. C'est invraisemblable.
Tu sais qu'ils surréservent jusqu'à 5 % de plus que les sièges, hein?
Ben oui.
Écoute, t'imagines? Tu t'imagines, mettons, là, un vol, là, je sais pas moi, un vol de 300 sièges, là? Ça commence en enfer, là.
Sur un gros parterre, c'est
ça veut dire 3 fois. Ça veut dire 45. Tu vends 45 billets de plus. C'est ça?
C'est 5 % de 300, ça fait 15, mais oui.
15, c'est ça que je voulais dire.
C'est ça.
C'est exactement ça, 15.
Mais c'est du monde, quand même.
Ça commence à faire du monde.
Puis c'est la roulette, tu sais pas comment ça peut arriver. Bon, il y a des gens qui achètent des billets en stand-by. C'est autre chose.
Oui.
Ces gens-là prennent le risque que quelqu'un se présentera pas, peuvent prendre le billet. Mais quand tu payes ton billet d'avance, tu planifies ton voyage, des fois c'est ton seul voyage de vacances avec ta famille.
Non, c'est l'enfer. Là, c'est l'enfer. Quand tu arrives avec des enfants, là.
Et l'autre affaire, moi, je veux dire, les mesures, c'est très bien, mais je dis encore une fois que c'est le strict minimum parce que là, il y a toutes sortes d'échappatoires. Évidemment, les conditions météo et la sécurité. Ouais.
Ben là,
ça aura le dos large.
Ah, ça c'est vrai. Les compagnies vont essayer de faire passer ça sur le dos effectivement des retards météorologiques.
Ben oui.
De nature météorologique.
Trop de soleil, le pilote était aveuglé.
Alors, on va juger l'arbre à ses fruits. Hein, on va juger l'arbre à ses fruits, mon cher Carl. Mais on va espérer. La seule chose, j'espère que le ministre Garneau ne va pas céder aux pressions des compagnies aériennes qui ont une dernière chance de faire valoir leurs intérêts d'ici le 1er juillet. Là. J'espère qu'il va se tenir debout.
Et j'espère aussi que lorsqu'on dit que les ressources seront là pour que les compensations arrivent rapidement, ça sera vrai. Mais permets-moi, considérant la rapidité légendaire avec laquelle les gouvernements fonctionnent habituellement, d'en douter légèrement.
Oui. OK. Ben écoute, on verra. Hein? Comme dirait l'autre, on verra.
On verra.
Bonne journée. On change de sujet. On s'en va à Québec. Pierre Moreau, qui a décidé finalement qu'il ne serait pas candidat pour devenir le prochain chef du Parti libéral.
Oui, c'est fini. Ce qui est intéressant, c'est sa recommandation. Il a dit, je pense que le Parti libéral est mûr pour avoir un chef qui vient de la nouvelle génération, un chef dans la trentaine ou dans la quarantaine, comme c'est le cas sur la scène fédérale. Tous les chefs de parti ont en bas de 50 ans, en tout cas les libéraux, néo-démocrates et conservateurs. À Québec, il y a le chef François Legault, le premier ministre, qui, lui, bon, est de la même génération que M. Moreau. Mais je pense que pour les libéraux, stratégiquement, c'est une bonne chose d'avoir quelqu'un qui vient de la nouvelle génération. Mm. Puis moi, j'ai toujours une certaine frilosité à faire des analyses hyper générationnelles parce que tu peux avoir des jeunes qui ont une tête de vieux, c'est-à-dire très prudent, très vieille politique. Et inversement, tu peux avoir des personnes plus vieilles qui réussissent vraiment à aller faire vibrer quelque chose chez les jeunes.
Oui.
Jacques Parizeau avait ce talent. Bernie Sanders l'a eu à la dernière campagne américaine, même s'il n'a pas gagné, évidemment.
Oui.
Mais je pense que l'importance est particulière pour les libéraux avec les jeunes. C'est que ça va être la meilleure façon aussi pour eux de prendre leur distance avec l'air Charest et l'air Couillard.
Mm-mm.
Et donc de dire que c'est pas le même vieux parti du pouvoir là, qui s'est trouvé un chef qui avait l'air assez présentable.
Ça, c'était le risque. Si Moreau revenait et gagnait,
ouais.
Ce qui était loin d'être évident, franchement. Là,
oui.
Je pense qu'il y a ça aussi dans sa décision. Je pense que s'il y avait eu beaucoup d'appui, notamment au caucus, il serait peut-être réessayé. Mais moi, ce que j'entendais, c'est que plusieurs des députés qui l'avaient appuyé la dernière fois n'étaient pas prêts à le réappuyer cette fois-ci. Là, je pense
non, parce que ça ne permettait pas de donner une image de renouveau. Mm. C'est malheureux pour Pierre Moreau parce que, ben, d'une part, c'était un parlementaire d'une formidable efficacité.
Absolument.
Mais il était arrivé un peu trop dernière minute pour la dernière course à la direction parce qu'il avait été il avait commencé à faire ses preuves au Conseil des ministres quand il avait pris la succession de Sam Ahmad au transport où on l'avait amené en renfort pour réparer les gaffes de Sam Ahmad.
Ouais.
Il avait bien fait, mais on le voyait à la dernière course à la direction comme celui qui, en arrivant deuxième, allait gagner en quelque sorte selon son plan de match parce qu'il se préparait peut-être pour la prochaine fois. Mais finalement, la prochaine fois est arrivée trop tard et on est avec un parti qui a besoin vraiment de un nouvel élan. Autre chose que j'ai remarqué dans ses explications, il dit « patience » avant de se lancer dans une nouvelle course à la direction, pas tout de suite.
Ouais.
Et il dit « faudrait que ce soit les militants qui tracent la voie, au lieu que le nouveau chef imprime ses valeurs, sa direction sur le parti, lui propose de fonctionner par le bas, vers le haut.
Ouais. » Encore faut-il qu'il y ait des militants, mon ami.
Ben, c'est ça. Mais
je peux te dire, en affaire, il y a un méchant paquet de comtés.
Donc, il faut quand même rappeler la... Oui,
il n'y en a plus de libéraux, là. Il n'y en a plus de militants libéraux. Ils sont très, très âgés. Là, dans beaucoup de... Les libéraux me le disent. Là, dans beaucoup de comtés, dans le Québec francophone, là, tout ce qui reste, là, c'est des militants qui étaient là dans les années 70 et 80. Là. Mais la base militante libérale, en particulier dans le Québec francophone, ne s'est pas renouvelée. Alors, de dire on veut que ça parte des militants...
Mais là, c'est l'œuf ou la poule.
C'est l'œuf ou la poule. C'est l'œuf ou la poule.
Parce qu'elle s'est effritée beaucoup, particulièrement en région.
Ben oui.
Parce que les militants libéraux, si on trace un portrait type, là, habituellement, ça vient de Montréal et ça se reflète dans l'organisation du Parti libéral et où ils ont fait élire des gens. Mais comme on l'a vu dans la campagne ou l'élection partielle à Robertval la semaine dernière... En région, ça va pas bien.
Non.
Et non, ça, c'est une problématique. C'est beau. Les militants, évidemment, ils tirent toujours la couverture de leur bord aussi. On veut aller gagner à où il n'y a pas de militants, il faut trouver une autre façon de faire.
Mais souvenez-vous, il y avait le rapport de Jérôme de M. Choquette qui disait écoutez, le Parti libéral, sous le gouvernement Couillard, c'est complètement le gouvernement s'est déconnecté de sa base militante du parti. Il l'écoutait pas, donc faut vraiment. Puis on a vu ce que ça a donné à la campagne électorale. C'est évidemment pas la seule raison qui explique leur défaite, mais ça les a pas aidés. Les salles étaient pas toujours pleines.
Oh non, ça c'est très, très vrai ce que tu viens de dire, mon cher Journet. On va s'arrêter et retour, tu vas nous parler des notes gonflées. Qui, supposément, sont terminés au Québec.
Supposément, Bernard.
Hein, c'est bien dit, hein?
Oui.
Oui, c'est ça. Dans un instant. OK. Les notes gonflées, c'est terminé, dit Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation.
Ouais, peut-être qu'il faudrait qu'il y ait une note de bas de page pour dire c'est quoi une note gonflée. Ben, on peut commencer peut-être par entendre la déclaration du ministre Roberge, puis ensuite on apportera 50 nuances de gris, si tu veux bien,
Bernard. Le gonflage de notes commission scolaire, là, ça c'est terminé. Il faut dire aussi que sous le précédent gouvernement, Sébastien Proulx défendait le gonflage de notes automatique, là. Lui, quand il avait 58-59, là, pouf, il gonflait artificiellement ça à 60.
Et vous?
Ça va être terminé, ça. Le taux de passation au Québec, c'est 60, c'est pas 58. Et jusqu'à il y a pas très longtemps, quand il avait 58, c'était gonflé artificiellement à 60. C'est une espèce de grand mensonge là, qu'il faut arrêter. C'est fini le nivellement par le bas avec la CAQ.
Oh oh! C'est fini le nivellement par le bas avec la CAQ. Il est encore un petit peu en campagne électorale, hein?
Oui. Ben, c'est le discours qu'il avait dans l'opposition, mais là, quand tu arrives au pouvoir, tu réalises que les choses sont plus compliquées.
Avec le nouveau gouvernement.
J'ai fouillé ce dossier-là, puis c'est plus compliqué. Ça te surprend?
Non, pas du tout.
Pourtant, à chaque jour, on arrive ici avec des propos qui résultent d'une démarche journalistique.
Paul, ça me surprend pas, tu es un
exemplaire, Bernard. Mais donc, oui, les notes gonflées, c'est, ça peut vouloir dire plein d'affaires en même temps. Puis les enseignants, pour certains types de gonflage de notes, là, ils déchirent pas leur chemise, ils trouvent ça. C'est juste un type vraiment précis. Donc, je te résume, tu as le gonflage de notes qui vient du ministère. Ou lors des épreuves provinciales.
Les examens du ministère.
C'est ça. Quand tu as 58 ou 59, il y a un ajustement automatique.
C'est de
ça dont il parlait.
C'est de ça dont
il parle? Entre autres.
OK.
Ben, c'est ça que je dis. C'est pas clair de quoi exactement parle M. Roberge. Il semblait parler entre autres de ça. Mais il y a des enseignants, je dis pas que c'est tous les enseignants, mais certains qui disent, écoute, c'est pas une science exacte, la notation. Puis le 1 ou 2 % ça peut correspondre à une certaine marge d'erreur. Tu as aussi le ministère qui va modérer, va moduler une note, puis ça peut aller à la hausse ou à la baisse. Donc, c'est un ajustement. C'est pas un nivellement par le bas, mais des fois, on peut en parler de ça quand on dit gonflage. Une autre catégorie, quand c'est pas le ministère, mais plutôt l'école.
Oui. Mais moi, je pensais que c'était surtout de ça dont tu parlais.
Ça peut être controversé parce que les écoles peuvent adopter une politique d'évaluation. Par exemple, dire chez nous, là, la note plancher, par exemple, c'est 45 %. Tu peux pas avoir en bas de 45 % parce que si tu donnes une note si basse, tu vas décourager l'élève. On peut avoir un bon débat, savoir si c'est du nivellement par le bas. Fort probablement que ça l'est au moins dans certains cas, sinon dans la plupart des cas.
Moi, j'aime pas ça.
Par contre, moi, je suis mal à l'aise avec ça comme toi. Par contre, au moins, c'est public. Fait qu'on peut faire le débat. On le sait exactement, c'est une politique d'évaluation, là, écrite noir sur blanc.
D'accord.
Fait qu'on peut savoir quelle école le fait ou non, l'identifier, puis changer ça. Ce qui est beaucoup plus insidieux, à mon sens, le plus gros problème, c'est quand le gonflage vient pas du ministère, ni de l'école, mais vient du prof. Et quand c'est pas parce que le prof exerce son jugement d'enseignant, ça c'est très bien, des fois le prof peut ajuster
oui,
ça,
oui,
c'est
d'accord.
Quand le prof subit les pressions
oui.
de l'école
parce qu'ils veulent
ou des
avoir,
parents.
Parce qu'ils veulent avoir un meilleur résultat.
Ça, c'est un maudit problème. Parce que les parents, ben, toutes les raisons qu'on peut imaginer, tu ne seras pas coulé mon jeune, ça va le décourager, blablabla. Ou les pressions de l'école.
Ben oui.
Parce qu'on sait la gestion par résultat, ça génère des effets pervers. Les écoles veulent apparaître en haut dans les palmarès.
Ben oui.
Ils veulent pas avoir une mauvaise réputation. Fait qu'au lieu
il peut avoir des pressions des commissions scolaires sur les écoles pour avoir
aussi.
Ça aussi. Hein?
Et les professeurs sont laissés à eux-mêmes. Puis ça, les syndicats d'enseignants décrit ce genre de gonflage de notes. Et
alors, on sait pas, ce qui est pas clair, c'est à quoi se référait-il? Est-ce qu'il se référait à tous les types de gonflage ou seulement à certains types? Ça reste à préciser, dis-tu.
Oui, ça, ben, à mon sens,
ouais,
là,
ouais.
Surtout, ouais. Comment est-ce que tu adoptes ça, tu es au pouvoir, c'est une politique ou tout ça. Puis en terminant, le ministre Roberge a évoqué la directive de son prédécesseur libéral,
oui.
Sébastien Proulx. Il avait pas mal critiqué, puis je peux comprendre pourquoi. La directive de Sébastien Proulx, elle faisait juste rappeler la loi. Puis elle disait au professeur, vous n'avez pas à subir les pressions indues. Ouais, mais s'ils subissent dans un coin de corridor.
Mais là, j'ai pas entendu Roberge dire qu'il allait changer la loi. Là. J'ai entendu J'ai pas entendu Roberge dire je vais changer la loi pour m'assurer que ça se produise plus. Là. Ce que je comprends, c'est que son seuil de tolérance, lui, est ailleurs, puis il va s'insurger.
Ouais, je pense qu'il va aller plus loin que Sébastien Proulx. Là. Sébastien Proulx, sa directive était très, très conservatrice.
Donc, ça il va changer la directive.
Il va changer, je ne sais pas, ça va être quoi le mécanisme.
Ouais.
Ça va être une directive, une politique. Mais clairement, si je l'ai bien compris, il va aller plus loin que Sébastien Proulx.
OK.
Mais les pressions vont rester là pour les parents. Écoute, moi, mon jeune, il a 59. si tu lui donnes pas 60, il va couler son année, il recommence à zéro, ça retarde tout son développement, ça va rester là, puis ça, tu peux pas le légiférer. Tu peux pas le légiférer parce que tu fais appel au jugement des professeurs, au jugement des institutions. Là où il y a un problème, c'est quand c'est automatique, effectivement, mais c'est le ministère lui-même qui a mis à cette culture-là en jeu. Quand ils sont mis à jouer avec les notes, il y a quoi, 20-30 ans, pour moduler, pour pondérer les résultats parce que on voyait des divergences entre les différents groupes alors que l'examen se voulait comme étant unique au Québec. Alors là, on a eu un problème, on a instauré cette culture-là et on fait face à cette situation. Et puis, je trouve que c'est un peu injuste de la part du nouveau ministre Roberge d'attaquer Sébastien Proulx qui a fait des efforts pour tenter de mettre fin. Ouais,
mais en même temps, s'il veut marquer un changement d'attitude ou sinon même de culture dans le réseau scolaire, faut qu'il donne un coup de barre. Là. Faut qu'il envoie un signal très clair comme il vient de le faire. Là. Il n'y a pas de place pour le vasouillage. Là.
Puis c'est pas vrai qu'il peut rien faire. Là. Ben là, tu peux outiller les enseignants dans le détail. Là, ça reste à voir comment, mais trouver une espèce de mécanisme où ils peuvent se plaindre ou une façon que ce soit fait plus transparente. Là. Ça n'a pas besoin d'être une loi qui dit c'était permis, maintenant c'est interdit. Là, on peut quand même y aller dans les nuances.
Regardez ce que je reçois là, de Judith par courriel là, au moment où on se parle. Ma fille a fréquenté l'école internationale de McMasterville. À plusieurs reprises, ses notes furent gonflées. Cette école veut à tout prix demeurer numéro un dans le palmarès.
Ben, c'est exactement le genre de pression indue qui peuvent venir des écoles qui mènent à un nivellement par le bas. Là.
Dans des cas comme ça, on ne prépare pas les enfants pour avancer à l'étape suivante. C'est ça le problème.
Regardez, là, j'ai des textos. Là. Ça se fait encore, je suis prof de français au secondaire. OK? Mm. Un autre texto. Que dire des écoles privées où les enseignants se font dire écoute-moi bien, toi. C'est moi qui paye ton salaire. Fais-le passer. Le parent qui dit ça à l'enseignant d'une école privée, c'est moi qui paye ton salaire, fais passer mon enfant.
Mais tu vois, moi, quand j'avais parlé au syndicat de ça, puis c'est plein de témoignages comme ça qui me rapportaient, où ils disaient c'est ça qui frustre vraiment nos membres, plus que l'ajustement automatique du ministère de 59 à 60 %, même si on peut être pour ou contre, là, oui. c'est plus insidieux ce genre de pression-là.
Autre texto, les enseignants sont coincés entre les parents et la commission scolaire. Ah, les oui. parents n'appuient pas les enseignants.
Ouais, ça, c'est vrai.
Ça, il y a du vrai là-dedans aussi. Carl Bélanger, merci.
Salut.
Paul Journet, merci.
Merci.
À demain, tous les deux. On continue tout de suite après la pause.